Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous allons passer une heure ensemble et vous êtes au bon endroit pour découvrir des patronnes et des patrons qui ont des idées pour faire face à la crise, qui rebondissent, des acteurs de la société qui prennent des initiatives. La France bouge, c'est simple ici, on trouve des solutions. Elles sont françaises. À mes côtés, Emmanuel Duteil, le chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Elisabeth Assayag, bonjour à tous. Comment consomme-t-on en ce moment? Qu'est-ce que change le couvre-feu national? Notre invité jusqu'à 14h, Michel-Édouard Leclerc, patron du groupe Leclerc.
À la une, en effet, la grande distribution se réinvente, s'adapte. Et avec l'explosion des livraisons à domicile, des start-up se mettent à livrer avec des vélos cargo, c'est ce que fait Olvo. Et son cofondateur nous dira comment la crise transforme son activité.
C'est l'un des produits les plus vendus dans les supermarchés, l'huile d'olive Puget. Tiens, qui se cache derrière? Ce sera notre saga du jour vers 13h30.
Chaque jour, les trophées Europe 1, la France bouge. Un projet défendu par celle ou celui qui en a eu l'idée. Aujourd'hui, l'équipe de la France bouge et notre partenaire CCI France ont retenu à pause. Ce sont des montres fabriquées en France. On découvrira le pitch à 13h45.
Et bien sûr, demain au travail, on passera un coup de fil chez Love Radius. Là-bas, on est payé pareil, mais on ne travaille plus que 4 jours par semaine.
Allez, bienvenue dans La France bouge. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
La France bouge sur Europe 1.
Allez, nous, c'est 5 jours sur 5 pour La France bouge. Chaque jour, en direct, jusqu'à 14h. Couvre-feu national à 18h, vous le vivez tous, hein, même pour les commerces essentiels, même pour nos supermarchés. Tiens, comment ils s'organisent? On va en parler avec notre témoin du jour.
Hein. Bonjour Michel-Édouard Leclerc.
Bonjour, bonjour amis d'Europe 1.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le PDG du groupe Leclerc, 721 magasins Leclerc en France, plus de 133 000 salariés. Le couvre-feu a commencé il y a 2 jours et demi. On le sait, les Français ont l'habitude de faire des courses tardives en fin de journée. Quel est l'impact sur vos magasins, Michel-Édouard Leclerc?
C'est un impact sur l'organisation générale, bien sûr, des horaires. Il faut faire cohabiter ou en tout cas rendre compatible des horaires pour remplir le magasin et puis des horaires pour que les clients ne croisent pas cette première vague de remplissage et puissent partir avant de rentrer chez eux. Donc c'est une gestion de flux. On s'est entraîné avec le premier confinement, avec l'inter-deux confinements. Les problèmes sont plus pour les clients eux-mêmes. Mmh. Hein, c'est compliqué quand il n'y a pas adéquation entre.
Mais on dit que d'habitude, pour la grande distribution, le créneau 17h-20h, c'est environ 30% des ventes, semble-t-il.
Oui.
Donc là, les gens viennent du coup beaucoup plus tôt et j'imagine beaucoup plus le samedi et le dimanche.
Voilà, donc il faut proposer un étalement du temps des courses. Venir plus tôt, venir entre midi et deux, venir le dimanche matin, parce qu'au fond, les pouvoirs publics ont été assez larges, même si c'est une revendication générale des commerces. Mais enfin, c'est aussi la vie privée de nos clients qui est plus compliquée. Mmh. Aller chercher les enfants à l'école, sortir du bureau, rentrer chez soi. On l'a bien vu, par exemple, hier soir sur Paris, c'était une ville embouteillée. Mmh. Donc, il y a des jauges, il y a des régulations. Ça ne nous pose pas de problème technique. Vous aimez qu'à cette émission, on dise des choses positives.
Mais oui, c'est ça.
La distribution petite et grande aujourd'hui, et quel que soit le secteur, a appris à réguler ses flux.
Alors la grande distribution a appris, du côté des clients, vous venez de le dire, c'est peut-être un peu plus compliqué, il faut se mettre en place, ça fait un an qu'on passe notre vie à nous adapter. Est-ce que ça signifie qu'ils font plus un gros plein de courses et ils vont venir moins souvent? Est-ce que ça signifie que ça se bouscule à la caisse à 17h50 parce qu'on sait qu'il faut vite rentrer à la maison? Qu'est-ce que vous avez constaté depuis ces deux derniers jours?
Alors là, on a eu un samedi soir et un lundi, hein. C'est pas une statistique
probante. Non, mais déjà, vous avez dû percevoir des signaux.
Oui, alors d'abord, il y a pas mal de public qui va sur des formules dont va parler mon voisin tout à l'heure, qui se font livrer ou qui vont sur des drives ou sur des points relais, ce qui est une manière, notamment pour les courses un peu volumineuses ou lourdes.
Les
aussi,
grosses courses, les pleins, ouais, comme on dit, les pleins de courses.
Et puis, ça va s'étaler dans la semaine.
Mais du coup, est-ce que vous pensez qu'on va surstocker en se disant « Non. Je vais qu'une fois par semaine faire mes courses, peut-être moins que d'habitude, et du coup, je vais prendre un pack d'eau en plus que ce que j'aurais fait naturellement, un pack de lait en plus, des yaourts en plus grande quantité, enfin bon, je ne sais pas ce qu'on peut
ajouter. » Dans le premier confinement, il y a eu ce temps court, cette peur de manquer, et rappelez-vous, toutes ces polémiques sur l'approvisionnement de la France et tout, on s'est tous mobilisés, et là, on est dans le temps long maintenant de plusieurs vagues. Tout le monde a compris qu'il n'y a pas un reflux, n'y aura pas un reflux de toute façon avant la fin 2021. Il y a un temps de vaccination des populations, je dirais dans chaque pays du monde, parce que là, les frontières sont fermées, tout ça. Donc, tout le monde a compris qu'il n'y a pas de problème d'appro. Donc, il n'y a pas ces foules, ces précipitations entraînant des ruptures d'approvisionnement. Non, non, c'est plus des régulations entre le temps au travail, le temps à l'école, le temps à la maison. Ça s'organise. Pour les clients, c'est difficile. Pour certains salariés aussi, c'est compliqué. Parce que on l'oublie, Paris n'est pas la France et les transports en commun, eux, ne se sont pas encore adaptés à ce déplacement.
Ce que vous demandez, c'est qu'on mette plus de transports en commun à 17h d'habitude aux alentours de 17h.
Ça va se faire, parce que les transports en commun, même si c'est d'intérêt public, sont souvent des sociétés privées qui vont prendre des
dispositions. Il faut aussi s'organiser, chacun doit s'organiser. Qu'est-ce qui se vend le plus en ce moment, Michel-Édouard Leclerc ?
Je trouve qu'après une période où tout le monde s'est précipité sur les pâtes, sur le riz qui se conserve et tout ça, le peu de papier toilette, on en consomme autant, mais
c'était ce qui sortait le plus.
C'est surtout, on a renoué avec la préoccupation du manger sainement. Depuis les états généraux de l'alimentation, il y a une élévation du modèle français de l'alimentation qui est très positive, moins de sel, moins de sucre, plus local aussi. Enfin, c'est le confinement fait qu'on s'intéresse à notre corps, soit parce qu'on a peur de se voir dans la glace, soit parce que justement,
on veut prendre soin, on a envie de booster notre immunité, on a envie de ne pas tomber malade.
Exactement. Donc, on mange plus de fruits. Alors, les fruits de saison, c'est des pommes, des poires et tout ça, mais on voit bien que on reprend après cette période où on a mangé un peu n'importe quoi au premier confinement. On revient vers quelque chose de plus organisé, plus sain.
Ça se traduit dans vos ventes ?
Oui, ça se traduit. C'est la part de bio qui continue, bien que plus cher, le bio par rapport au conventionnel. C'est la part de bio qui continue de croître beaucoup. Et puis, cette préoccupation du local, on peut y voir un comportement vertueux ou plus vertueux en disant « j'achète chez moi, c'est mon pays », etc. Mais c'est aussi la traçabilité, quoi. On sait d'où ça vient. Et au fond, cette idée que tout le monde doit faire attention à ce qu'on mange... Ben on l'attribue aussi à un industriel ou au producteur. Et s'il est à côté de la maison, je sais à qui me plaindre si c'est pas bien. Quoi.
Vous parlez du bio, hein, c'est bien évidemment ce qui progresse le plus dans les rayons. Mais c'est vrai que quand on regarde au global, je crois que c'est encore 4-5% du panier. Donc on est encore sur une toute petite proportion. Est-ce que malgré
tout... C'est beaucoup. Hein, on ne se rend pas compte quand on dit ces chiffres-là. C'est déjà beaucoup.
C'est bien évident. Et puis il y a très peu de produits qui auraient en si peu de temps progressé. Mais du coup, est-ce que vous allez encore accélérer dans vos magasins la mise en place du bio plus que ce que vous auriez fait parce que vous auriez peut-être été plus lent dans la montée en charge ?
Oui, alors comme vous le savez, la production française de bio ne suit pas la demande. Et d'autre part, quand bien même beaucoup d'agriculteurs sont en train de passer au bio, il faut un temps de conversion au bio, en général 2 ans, 3 ans. Et ça suppose que vos voisins font pareil, parce que sinon vous n'aurez pas la certification à cause d'un environnement trop conventionnel. Donc il y a aussi d'autres formules, comme la haute qualité environnementale. Nous aidons les producteurs avec des contrats de filière. C'est pour nos marques repères, par exemple. On a des contrats de filière avec eux. Et on les accompagne pour qu'ils puissent devenir bio sur 3 ans. Et on fait des contrats à 3 ans avec eux.
Ouais. On va continuer à en parler avec vous, Michel-Édouard Leclerc. Vous êtes le président, directeur général du groupe Leclerc. Et vous restez avec nous.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
On parle de vous une fois de plus aujourd'hui dans La France bouge, puisqu'on parle de notre consommation avec l'un des meilleurs témoins en la matière, Michel-Édouard Leclerc, qui est à la tête du groupe Leclerc, qui est l'ambassadeur de ce groupe Leclerc.
Alors que le statut des travailleurs des plateformes n'est toujours pas clair, des coursiers ont fait le pari de la coopérative pour bénéficier notamment de meilleures conditions de travail et de se déplacer, de livrer avec des vélos cargo. Bonjour Paul Roudot.
Bonjour Elisabeth, bonjour aux auditeurs d'Europe 1.
Vous êtes co-gérant d'Olvo. Olvo, c'est vous livrer à vélo cargo des courses, hein, vous faites de la livraison, ça existe depuis 2016. À la base, vous souhaitiez optimiser les livraisons de repas parce que vous aviez remarqué que c'est assez fréquent de livrer plusieurs clients au même endroit, hein, par exemple dans une entreprise, il y a 30 commandes, donc il y a 30 livreurs qui arrivent et vous êtes dit, on va l'optimiser. C'est possible d'envoyer un seul vélo cargo pour une commande de plusieurs repas. Et c'est comme ça qu'est né Olvo.
Exactement. C'est parti du constat en fait tout simple que l'expérience client sur une livraison entreprise d'un repas pour 20 collaborateurs, quand elle était livrée par 5 ou 6 coursiers Deliveroo qui se succédaient,
hein.
c'était pas top. Et du coup qu'avec un vélo cargo, on pouvait livrer la totalité de la commande en gardant les avantages du vélo.
Et du coup, vous êtes fortement développé hein, maintenant au-delà de ce secteur premier, notamment pendant le premier confinement, vous avez connu un véritable un véritable boom, on peut le dire.
Alors oui, on a connu une très forte croissance, notamment avec des contrats avec la mairie de Paris. En fait, on a livré des paniers solidaires, des marchés parisiens, on a livré des masques, de nombreuses denrées et produits dont les Parisiens avaient besoin à ce moment-là. Et il y a eu un très fort essor de la livraison de repas à domicile. Tous les grands chefs s'y sont mis, Guy Savoy, Hélène Darroze, avec qui on travaille sur Paris.
Alors vous êtes arrivé à des pics très importants, hein, plus de 2000 livraisons par jour pendant le premier confinement. Est-ce qu'on peut dire que la crise vous permet de développer votre entreprise et de croître ?
Oui, puisqu'on a pu, contrairement, je pense, à une bonne partie des entreprises françaises, embaucher en fait pendant cette période.
Vous avez donc créé de l'emploi.
On a créé 6 CDI depuis le premier confinement.
Bravo, voilà. Bravo. Alors donc, vous disiez que vous avez des clients comme les chefs, mais vous êtes aussi en train de travailler, vous essayez en tout cas de travailler avec la grande distribution, parce que là aussi, on le voit, il y a une demande avec l'essor du click and collect, avec l'essor de la livraison à domicile. Vous, comment vous vous positionnez sur ce marché? Parce que les distributeurs, ils ont déjà en général leur propre flotte de livraison.
Alors, on se positionne sur ce marché, je dirais... en y allant quand même à tâtons, puisque c'est des livraisons qui sont physiquement éprouvantes, parce qu'il y a quand même souvent des packs d'eau, des produits lourds. Et puis comme ce sont des produits à valeur ajoutée pas hyper élevée, le coût de la livraison en fait est souvent dur à faire rentrer dans l'équation financière, d'autant plus que la livraison est souvent offerte à partir de 50 euros d'achat pour les magasins du centre-ville. C'est vrai que nous, nos prix ne matchent pas forcément avec ces livraisons.
Parce que vous êtes cher ? Vous êtes cher ?
On est cher, en tout cas on est plus cher que la moyenne sur ce secteur-là.
Ce qui est intéressant avec votre modèle, c'est que vous avez voulu garantir des conditions de travail que vous dites dignes pour un salarié classique, des congés payés, une couverture maladie, ce qui est assez rare encore dans ce secteur de la livraison. Pourquoi être allé sur ce segment-là, ce qui fait sûrement que vous pratiquez des prix qui sont potentiellement un peu plus chers.
Tout simplement parce qu'on était assez affligés en fait de la situation des livreurs qui travaillent pour les plateformes, qui ne bénéficient pas de couverture sociale, de congés payés, ne sont pas rémunérés en cas d'accident de travail, qui en plus ne cotisent pas pour leur retraite. Nous, on souhaitait lutter contre la précarisation croissante de ce métier.
C'est ça, que le livreur retrouve une espèce d'estime de soi et qu'on le respecte avec un vrai contrat, avec une couverture sociale, avec des congés. Et ça, vous avez réussi à le créer dans un milieu où, on le sait, les contrats sont très précaires.
Exactement, c'est ce qu'on cherche à faire.
Vous êtes aujourd'hui à Paris, vous comptez vous développer dans les autres grandes métropoles françaises ?
Alors... potentiellement oui, après ce ne serait pas forcément sur un système de franchise classique, donc on ne colporterait pas forcément la marque Dolvo, ce serait plutôt sur un système qu'on aime appeler free cheese, donc où en fait on pourrait créer des antennes qui utilisent nos outils logiciels, nos process, mais avec une entité potentiellement indépendante.
Michel-Edouard Leclerc, vous êtes notre grand témoin du jour, PDG du groupe Leclerc. Vous faites attention, vous, aux entreprises de livraison qui collaborent avec vous. Vous savez avec qui vous travaillez ?
Oui, je trouve que... Oui, bien sûr. Et je suis content de le rencontrer, le représentant Dolvo. C'est une dynamique intéressante. Puis il exprime bien son projet. On travaille, on est nouveau sur la vente à domicile, ou la vente en dépôt relais. On travaille avec quelques-uns de vos collègues de Pick Me ou La Petite Reine. Mais c'est avec plaisir que je vous organise un rendez-vous après.
C'est fait pour ça, la France bouge.
Chez nous. Je tiens compte de votre spécificité, de votre volonté. Mais vous savez, on travaille aussi beaucoup, on est nous-mêmes des coopératives et on travaille aussi avec des coopératives. Donc... Vous avez raison de vous poser la question avant d'y aller, de celle de la rentabilité de la vente à domicile. C'est un coût de la livraison. Tout le monde est parti dans l'idée à la Amazon que ça c'était gratuit. En fait, il y a bien quelqu'un qui paye.
Il y a une logistique.
Donc, la qualité de la gestion sociale de ces services doit être pensée à l'aune des personnes qui le font.
Mais c'est vrai que c'est capital pour vous, puisque à l'aune des confinements, et aujourd'hui la livraison est de plus en plus importante, y compris avec le drive qui est en train de se développer. Vous êtes l'inventeur, Leclerc, du drive en France. Tout ça est dans cette logique qu'on va aller moins dans les magasins et qu'on va soit aller nous-mêmes chercher nos courses, soit se les faire livrer.
ou faire les deux. Je crois à une vision plus omnicanale, au choix des consommateurs, selon le lieu où on est. C'est vrai que cette année, le drive a représenté 60% de notre croissance. Le drive, c'est la prise de commande à partir de l'ordinateur, on va pour chercher. Et la vente à domicile s'est développée, mais avec, pour des raisons sanitaires, tout le monde ne voulait pas forcément que des livreurs viennent dans l'immeuble ou à domicile. Donc le drive ou le dépôt relais...
était la solution.
C'était la solution,
et on
oui.
dit souvent que le drive, le plus dur, c'est la première commande. Et une fois que vous avez converti les gens, oui. en grande partie, ils y restent ou font un petit peu les courses quand même dans le magasin, mais pas ouais. souvent par le drive. C'est ce que vous vérifiez ?
Oui, et en fait, on a été, moi-même, j'ai été très impressionné. On avait des projections, et je le dis pour toi aussi, si ça t'intéresse. On était à...
Paul Roudot.
Sur, t'es un breton, en t'appelant Roudot
comme Tout à fait.
Ah, voilà. Et de Finistère aussi ?
Des Côtes d'Armor.
Ouais, t'es pas loin, t'es frère quand même.
Il y a des trucs à faire ensemble.
En fait, on pensait faire un chiffre d'affaires sur le drive pour 2024. On l'a fait en 2020. C'est-à-dire qu'on a eu 1 million de clients supplémentaires qui sont venus, qui n'étaient pas chez Leclerc et qui sont venus via le drive ou ses dépôts relais. Donc, il y a une vraie... Le Covid accélère.
En fait, vous gagnez 5 ans sur tout ce que vous auriez aimé faire. Quoi. Enfin, 4 ans, là.
Alors, ce n'est pas un n'importe quel coût et notre interlocuteur a raison de le dire. Il faut maîtriser tout ça. Mais c'est vrai que le consommateur plébiscite ces modes digitaux de prise de commande et cette semi-livraison en quelque sorte.
En tout cas, merci à vous Paul Roudot d'être venu nous parler d'Olvo. On espère que vous allez faire plein de jolis contrats avec Michel-Édouard Leclerc. On vous laisse parler hors antenne. Vous, Michel-Édouard Leclerc, vous restez avec nous jusqu'à 14h.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Et on est, comme chaque jour, heureux avec Elisabeth de vous accueillir sur Europe 1 en direct dans la France Bouge jusqu'à 14h avec notre grand témoin du jour, Michel-Édouard Leclerc, qui est le patron du groupe Leclerc. Alors, on l'a vu avant de s'interrompre, il faut s'organiser en ce moment en raison de ces couvre-feux généralisés. Vous le racontiez, Michel-Édouard Leclerc, le drive connaît une progression énorme. Ce qui veut quand même dire que, d'une certaine manière, il y a moins de monde dans vos magasins, en tout cas de façon tendancielle. Vous êtes un fervent défenseur de l'hypermarché. Vous êtes quasiment l'un des seuls encore aujourd'hui. Vous y croyez vraiment ?
Non, je pense qu'on est nombreux à défendre l'hypermarché. Ce qui a péché pendant le Covid, ce sont les règles de circulation qui fait que les grands hyper très extérieurs dans les centres commerciaux et même les magasins spécialisés qui étaient à côté des grands hyper n'ont pas pu ouvrir ou on n'osait pas dire aux gendarmes qu'il nous fallait plus d'une heure. Quoi. Mais sur le fond, l'hyper, un hyper plus attractif avec... un modèle alimentaire donc plus spécialisé, plus expert, avec des gens dedans, avec des vrais bouchers, des vrais poissonniers, etc. Pour moi, ça reste le navire amiral encore pendant au moins 15 ans. Quoi.
C'est par petites touches que vous allez le faire évoluer en mettant par exemple plus
investir.
De produits frais. Parce que par exemple, on voit que le textile aujourd'hui s'effondre oui. dans la grande distribution. On voit aussi que les ventes de télé, ce genre de choses, alors même s'il y a eu un petit boom pendant le confinement, mais... C'est plus le réflexe premier des gens d'aller au supermarché pour ça.
Oui, c'est ça. L'omnicanalité.
C'est-à-dire aller au supermarché et faire ses
voilà,
courses en ligne.
Et on arbitre. Et alors, l'hypermarché aussi, c'était le porte-parole des enseignes. Mais vous voyez, un groupe comme Casino, aujourd'hui, on en parle presque plus en tant que C-discount qu'en tant que géant, alors que ça appartient au même groupe. Chez Leclerc, tout a le même nom. Donc, je pense qu'on a bien fait, d'ailleurs, et la même politique de prix.
Mais c'est vrai que vous êtes allé moins vite que les autres sur les petits magasins de proximité dans les grandes villes.
Oui.
Quand on regarde les chiffres, vous citez Casino, oui. bah, c'est Franprix, c'est Monoprix qui marchent chez
oui.
eux. On voit que chez Carrefour, ils ont aussi retrouvé de la croissance grâce à cela.
Voilà.
Qu'est-ce que vous faites, vous ?
Bah, je pense que Monoprix, à Paris, ça marche. Mais en province, il n'y a plus de Monoprix. Je ne règle pas mes comptes derrière le comptoir. Hein, je parle en tant que formule. Moi, je crois moins à la proximité qu'à l'accessibilité. La génération qui me suit, là, elle veut peut-être pas tout en même temps, mais elle veut pouvoir choisir non seulement les produits, mais aussi la manière dont ça lui arrive. Et du coup, la proximité, c'est un choix. Mais quand on part en province, on veut trouver déjà à la maison, à la résidence secondaire, le truc arrivé. Et quand on est à Concarneau, on n'a pas envie d'attendre le Amazon toute la journée. Donc, on va aussi à Leclerc, à l'Intermarché ou à Lidl. Et je pense que c'est ça qu'il faut voir. On est dans le multiple choix. Et donc, une enseigne se doit d'offrir tous ces choix.
Et ce qui marche, hein, puisque Leclerc est le seul groupe de distribution vraiment en progression avec Lidl que vous venez de citer.
Non, il y a beaucoup de groupes en progression.
En tout cas, ceux qui fonctionnent les mieux, oui. Leclerc et Lidl.
Oui.
Michel-Édouard Leclerc, les soldes débutent demain.
Oui.
Est-ce que ça reste un énorme temps fort hein, pour vous cette année, plus, plus particulièrement ?
Alors, chez Leclerc, non. Les soldes, c'est des opportunités.
Ouais, c'est
mais
des opérations de promotion.
Dans le calendrier,
promotion.
Des offres, etc. Je pense plutôt aux collègues qui sont spécialisés dans le vêtement et tout ça.
Mais chez vous, non.
Eux, ils rament. Hein. C'est tout le secteur textile. Bien ça sûr, fait 2-3 ans. Puis avant, ils avaient eu les ronds-points, les gilets jaunes et tout ça. Là, il va y avoir des faillites... Et même des marques, quoi, hein, pas simplement les multispécialistes. Il y a des grandes marques, il y avait des magasins, des showrooms, des vitrines, dans la chaussure, dans le... ça va être dur pour eux.
Et vous allez leur tendre la main ? Vous allez peut-être les aider, justement, parce que vous assistez à ça et de votre côté, ça marche plutôt bien ?
Déjà, je suis venu dans les médias déjà pour plaider pour qu'ils ouvrent leur magasin, déjà avant Noël et le premier an, parce que je pense qu'il fallait étaler, justement, ces ventes. Alors, les libraires ont fait à peu près leur... ils ont fini à moins 2, ce qui est, c'est bien.
Ce qui est exceptionnel,
le jouet, il va y avoir encore, mais vêtements, je ne sais pas comment on peut aider. Hein, parce que plus, c'est des séries, ce qui n'est pas vendu une année n'est pas...
Et ce qui est la grande différence avec beaucoup de secteurs d'activité, en effet, en ce moment. Ce sont justement les négociations commerciales en ce moment. Ces négociations entre fournisseurs et distributeurs, c'est ce qui fixe les prix de ce que nous, consommateurs, on va acheter dans vos rayons. On a énormément de remontées en ce moment de fournisseurs, petits et gros, qui nous disent... C'est reparti comme en 40, la grande distribution nous force à baisser nos prix parce qu'ils voient que dans leur rayon, les gens ont moins d'argent, donc ils veulent absolument avoir des prix plus abordables. Vous êtes à nouveau les grands méchants, Leclerc et les autres ?
Non, et ça c'est un discours qui vous vient des fédérations mais qui n'est pas observé sur le terrain.
Là, très franchement, on a eu même des petits producteurs qui nous disent ça.
Alors, l'enseigne Leclerc ne négocie pas nationalement avec les petits producteurs, je ne me sens pas concerné, mais... Franchement, même en ayant discuté avec Intermarché, Système U, on fait vachement gaffe en ce moment. D'abord, il n'y a aucune négociation physique. Hein. On est tous en webinar, sur Zoom et visio, etc. Donc, tout le monde fait gaffe aussi. Hein. Et puis...
On ne demande pas à ce qu'ils baissent leur prix plus que ce qu'on aurait fait hors Covid.
Non. Alors après, cette difficulté de savoir quelle est la situation vraiment de votre interlocuteur. Mmh. Est-ce qu'on négocie vraiment parce qu'on est sur un marché ou est-ce que vous êtes en mauvaise difficulté, vous industriel, vous n'osez pas le dire, mais en fait, vous êtes dans le rouge. Et là, c'est plus la négociation, c'est du mécénat, mais c'est de la médiation qu'il faut faire. Et c'est ça qui rend... La négociation cette année, elle est complexe parce que nous reconnaissons que beaucoup d'industriels rament, vraiment beaucoup, et c'est très difficile de négocier avec quelqu'un qui rame. Alors, une des solutions, c'est justement de transférer nos contrats à un an et d'en faire des contrats à 3 ans avec des tunnels d'appréciation.
Mais est-ce que malgré tout, vous avez besoin de prix plus bas parce que vous vous rendez compte que les gens ne vont pas bien ? Ce même micro, le patron de Système U, il n'y a pas longtemps, nous avait dit « Je suis catastrophé par la situation des jeunes parce que je vois que leur panier moyen s'effondre. Il faut qu'on fasse quelque chose. » Est-ce que vous le voyez également ?
Oui, mais ça, je le prends sur ma marge. C'est-à-dire que le Secours Populaire, par exemple... estime qu'il y a aujourd'hui 8 millions de Français qui sont en dessous ou au niveau du seuil de pauvreté. C'est énorme, 8 millions de Français. Si vous voulez bien vous rappeler que même si en France, on a eu un régime de chômage partiel qui aujourd'hui remplit à peu près le contrat de l'absence de salaire, au premier confinement, il ne représentait que 85% des revenus. Donc il y a des problèmes d'argent dans la société française. Et oui, le pouvoir d'achat se réinvite après le Covid dans les demandes sociales et nous devons y répondre, y compris en prenant sur nos marges.
Et donc, Michel-Édouard Leclerc, est-ce que ça signifie que vous travaillez à des offres de crise pour avoir des prix plus abordables ?
La réponse est oui.
Comment ?
Alors d'abord, il y a un retour des premiers prix. Le premier prix était un peu disparu, ou en tout cas avait pris moins de place, avec la conversion des hard discounters, vous savez, Aldi, Lidl, qui vont plutôt vers des offres monoprix ou des offres soft discount. Et là, il y a eu un manque dans le premier accès au prix. Et donc, nous remettons en avant nos premiers prix et la marque EcoPlus, avec évidemment les garanties sanitaires et les garanties qualitatives qui vont avec. Et puis, le champ promotionnel s'est élargi. Même si la loi a restreint le pourcentage de promos qu'on peut faire, ça c'était fait pour qu'il n'y ait pas de pression trop forte sur les agriculteurs, aujourd'hui, il y a une demande de promos qui, comme jamais... Actuellement, la moitié de ce qui est vendu se le fait en promo. Quoi. C'est à la louche que je dis ça, mais c'est... Un distributeur qui ne fait pas de promo, nous, on n'en faisait pas beaucoup. On était les militants du prix bas toute l'année,
du prix bas toute l'année,
mais il faut faire...
C'est encore plus bas chez vous, c'est ça que vous nous dites.
Oui.
Alors, Michel-Édouard Leclerc, chaque jour dans La France Bouge, on se pose un moment et on découvre l'histoire d'une marque française que nous connaissons tous et qui fait la fierté de notre pays. Aujourd'hui, on va vous parler d'un des produits qui se vend le plus en supermarché. Ce produit est présent dans un foyer sur quatre.
Oui, elle existe depuis 1857, c'est l'huile Puget. Et c'est notre saga du jour dans La France bouge, racontée par Quentin Paillet.
Europe 1, La France bouge, la saga.
Tout l'amour que j'ai pour toi est brûlant comme un feu.
Quand on entend cette musique, il y a de grandes chances que l'on pense immédiatement à la marque Puget et à son huile d'olive. Et c'est bien normal, car cette chanson de Dario Moreno, « Tout l'amour que j'ai pour toi », a fait le succès de Puget dès les années 1980. Marie Saglio, directrice générale du groupe Le Sieur, dont fait partie la marque d'huile d'olive Puget.
Ça, c'est dès 83, au bout de début des années 80. Ça a été soutenu par des campagnes publicitaires qui ont extrêmement bien fonctionné, qui ont marqué les gens. Tout ça supporté par une chanson de Dario Moreno, que les gens crient à tue-tête. Pour vous donner un exemple, on est partenaire du Tour de France et quand la caravane Puget passe, les gens chantent « Tout l'amour que j'ai pour toi » à tue-tête.
Mais Puget, c'est surtout de l'huile d'olive et c'est aujourd'hui l'une des plus vieilles marques vendues dans tous les supermarchés français. Tout commence en 1857 sur le Vieux-Port de Marseille avec Adolphe Puget.
C'était un négociant d'huile d'olive et il avait créé sa société d'exportation d'huile d'olive à cette époque pour commercialiser son huile vers les pays d'Amérique du Sud. Il a commercialisé Puget en France uniquement en 1930 et ça a été le début en fait de Puget dans l'Hexagone.
Puget n'est donc commercialisé en France qu'en 1930 et encore seulement dans le sud de la France, car si aujourd'hui on met de l'huile d'olive dans tous nos plats, presque comme une habitude alimentaire, il faut attendre les années 1970 pour que Puget se vende sur tout le territoire et que tous les Français connaissent la marque.
Jusqu'à assez récemment, en fait, la France était assez divisée. Vous aviez les consommateurs d'huile d'olive qui étaient dans le sud, l'ouest c'était le beurre. Et en fait, l'huile d'olive a gagné ses lettres de noblesse à partir effectivement de l'après-guerre, par son goût, par tout ce qui a pu être communiqué sur le régime méditerranéen dont vous avez déjà dû entendre parler, régime crétois en particulier. L'huile d'olive, aujourd'hui, c'est un quart des volumes consommés en France, dans les foyers français. C'était pas du tout le cas il y a encore 30 ou 40 ans.
On pourrait croire qu'en plus d'être un énorme succès en France, Puget se vend très bien à l'étranger, mais ce n'est pas le cas, car ce n'est pas l'ambition de l'entreprise. Hors des frontières françaises, Puget a un gros concurrent, c'est notre voisin italien, et ce, pour une raison.
À l'international, et en particulier sur les gros pays qui se développent aujourd'hui en huile d'olive, comme les États-Unis ou la Chine, c'est les marques italiennes qui sont très prisées de nos amis américains ou chinois, parce que l'Italie représente le pays de l'huile d'olive dans l'imaginaire collectif.
Le principal marché de Puget, c'est donc la France, et avec 20 millions de bouteilles d'huile d'olive produites chaque année, la marque née en 1857 à Marseille écrase tout. Elle est présente dans un foyer français sur quatre.
C'était la saga du jour racontée par Quentin Paillet de l'équipe de La France Bouge. Notre grand témoin du jour, Michel-Édouard Leclerc, le patron du groupe Leclerc. Alors, il paraît que la grande distribution est un secteur stratégique. Bruno Le Maire, à ce titre, a bloqué ce week-end le rachat de Carrefour par le Canadien Couche-Tard. Vous, comme chef d'entreprise, est-ce que vous comprenez cette décision ou vous dites, ça y est, on est un pays protectionniste?
Alors, sur le dossier lui-même, je pense qu'il y a autre chose et qu'on ne connaît pas. Et puis, ce n'est pas à moi de commenter derrière le comptoir ce qui se passe chez Carrefour. Sinon Bruno Le Maire n'aurait pas réagi aussi vite. Un dossier, ça s'instruit et puis ils se connaissent tous là. Donc,
a priori, non, pas aimé de pas avoir été prévenu.
Oui, on dit ça, mais dans la réalité, du côté du vendeur, c'est Lazare,
c'est Rothschild. Est-ce qu'on est trop protectionniste?
C'est l'inspecteur des finances. Enfin, ils se connaissent tous. Il faut pas non plus être. Ce qui est intéressant, c'est qu'après le Covid, je pense, il y a une prise de conscience de l'ensemble de la classe politique du rôle fondamental. De la fonction commerciale, à la fois pour écouler la marchandise en temps de crise et aussi comme acteur ou co-acteur d'une gestion sanitaire, en tout cas des flux dans une société française. Et puis, on est à un moment où même on est en train de dire qu'il faut constituer des pôles européens capables de rivaliser avec les Chinois, avec les Américains. Et on s'aperçoit que tous les grands industriels, les GAFA américains, ceux de la tech, où les Chinois, ils ont bénéficié finalement d'une préférence sur leur marché national, sur leurs marchés nationaux, avec leur boîte. Mmh. Et donc, je pense que M. Le Maire, M. Breton, sont en train de se dire, on a quand même des grandes boîtes françaises qui peuvent être des vecteurs à l'export, Auchan, Carrefour,
Casino. Donc si on vous comprend bien, vous trouvez normal pour construire en vente des champions nationaux.
Au-delà de la forme, je trouve que c'est bien. Et même nous, ça nous amène à avoir un autre type de discussion avec l'État. Vous voyez, c'est...
Vous aussi, Michel-Édouard Leclerc, vous pensez peut-être un jour vous rapprocher d'un concurrent étranger?
Nous sommes associés avec des concurrents étrangers. Leclerc est associé
notamment avec un Belge.
Avec le groupe Ahold Delhaize, Belgique et Pays-Bas, et avec le groupe allemand Rewe,
qui est présent dans 13 pays européens, y compris et qui va jusqu'en Russie. Et nous sommes avec la Coop Italia, qui est le numéro 1 en Italie. Et donc, échange de bonnes pratiques, négociations ensemble, opérations ensemble. Et on est très soudés.
C'est ce qui fait peut-être votre force.
On est l'Europe
aussi.
De la distribution. Notre objectif, c'était une sorte d'Airbus de la distribution européenne.
Ouais. Mission accomplie. Michel-Édouard Leclerc, vous êtes le président du groupe Leclerc. Vous restez avec nous jusqu'à 14h. Dans un instant, vous allez challenger un projet d'entreprise.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Allez, c'est parti pour les trophées Europe 1, la France bouge chaque jour, elle, où il tente de vous convaincre. D'abord, convaincre notre partenaire, hein, CCI France, avec Nathalie Carré. Elle est dans les starting blocks, vous allez voir, je suis sûr qu'elle est déjà en train de rigoler. Et convaincre aussi notre témoin du jour. Aujourd'hui, c'est Michel-Édouard Leclerc, le patron du groupe Leclerc.
Et c'est le moment d'écouter un entrepreneur qui se lance et qui ose en ce moment, comme vous, Didier Fink. Bonjour.
Bonjour, Elisabeth.
Vous avez 34 ans, vous êtes de Mulhouse. Vous êtes le cofondateur de Apose, A-P-O-S-E. Ce sont des montres fabriquées en France. Elles sont en vente depuis le mois de novembre. Elles sont en vente en ligne. Vous allez nous raconter votre projet. C'est parti, vous avez une minute.
Nous avons créé Apose en réaction à la tendance actuelle des montres haut de gamme, devenues trop sophistiquées, trop élitistes, trop extravagantes. Nous pensons qu'une belle montre se distingue par sa pureté dans toutes ses dimensions. La pureté du design, longuement réfléchi, pour marier la rigueur de l'angle à la sensualité des courbes. Du coup, le dessin unique convient autant aux hommes qu'aux femmes. La pureté et la transparence de la fabrication. Les montres Apose sont fabriquées avec 80% des pièces issues des meilleurs ateliers français, et cela sans aucun composant asiatique, ce qui est unique sur ce marché. La pureté du commerce. Nous avons décidé de commercialiser nos montres en ligne, donc sans intermédiaire, ce qui nous permet d'avoir une relation directe avec nos clients et un prix imbattable. Et tous ces choix inscrivent Apose dans le plus pur style de l'élégance à la française, et c'est notre fierté.
Et ben voilà, bravo déjà pour ce pitch. Merci Didier et bravo à vous.
Oui, bravo à vous. Alors on a plein de choses à vous dire.
Et on va retrouver Nathalie Carré dans un instant, mais parce que c'est Nathalie Carré, il faut patienter un peu pour la retrouver.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Et nous sommes toujours en direct sur Europe 1 avec vous, Didier Fink. Vous venez de nous décrire hein, votre beau projet. Ce sont des montres fabriquées en France. Vous êtes le cofondateur de Apose. Et nous sommes avec Nathalie Carré de la CCI. Bonjour Nathalie.
Bonjour Elisabeth, bonjour Emmanuel et bonjour Didier.
Bonjour.
Alors Nathalie, vous avez épluché, analysé Apose les montres fabriquées en France. Quelles sont les forces et les faiblesses de cette nouvelle marque ?
Alors déjà, la cohérence entre la recherche de pureté avec le design du site, le logo et les photos, c'est très très cohérent. Deuxième point positif, les 14 jours d'essai à domicile, ça rassure le client. Et puis le côté investissement et transmission de votre montre qui filtre à travers le mot « acquérir » que vous utilisez plutôt que « acheter ». En revanche, quelques points améliorés, c'est la présentation de vos montres. Il faudrait faciliter la prise de décision et l'acte d'achat. Alors déjà, à côté du prix, ajoutez une infobulle qui explique pourquoi votre montre n'est pas chère, eu égard à la démarche et à sa qualité, parce que 1 250 €, ça reste objectivement un prix malgré tout élevé. Voilà. Bon. Mais comme vous expliquez par ailleurs que c'est pas cher, il faut l'expliquer le plus possible. À côté de « Je commande », ajoutez un bouton « J'essaye pendant 14 jours », puisque vous avez cet avantage, rappelez-le. Ajoutez la possibilité de zoomer sur chaque photo, notamment pour voir le rendu des micro-billes, parce qu'on a l'impression que ça fait comme des petits diamants, mais on ne voit pas bien. Et puis la fiche technique, vous cherchez la transparence, donc vous donnez plein de détails. Je suis sûre que les internautes sont ravis de savoir que le chanfrein est poli, que la boucle ardillon est surmoulée. Mais vraiment, tous vos acheteurs ne sont pas des horlogers. Donc ce que vous faites pour les rassurer, en fait, ça peut leur laisser penser que ce n'est pas pour eux. Donc expliquer toutes ces informations.
Alors merci Nathalie Carré, c'est très intéressant ce que vous dit Nathalie Carré Didier Fink, parce que effectivement il faut plus de visibilité, plus de clarté pour que le consommateur, pour celui qui va cliquer là, qui va acheter votre montre, soit au courant de tout ce que vous proposez.
Oui, merci déjà pour tous ces conseils. Donc effectivement, on est en train de travailler sur des vidéos qui vont nous permettre et permettre aux acquéreurs de voir la montre plus en détail dans tous ses angles, où la lumière va jouer vraiment sur les finitions, etc. Donc ça permettra de découvrir vraiment la montre différemment. Et effectivement, on est aussi en train de travailler par rapport à notre site internet sur une communication différente sur ces montres.
Michel-Édouard Leclerc, patron du groupe Leclerc, on met la casquette d'entrepreneur, mais que vous enlevez quand même très très rarement, il faut bien le reconnaître. Qu'est-ce que ça vous inspire, un tel projet ?
Vous achetez ?
Ouais, même, je suis aussi président de Neoma, là, les
C'est le seul endroit où je suis vraiment président, d'ailleurs, l'école de commerce. Et je trouve que son initiative est très intéressante. Moi, si j'avais un conseil à donner, c'est peut-être d'inscrire encore plus pour défendre ses valeurs franco-françaises, de l'inscrire dans la tradition horlogère de Besançon, de tout cet endroit. Parce qu'au fond, ancrer n'est pas nier le futur. Ancrer, c'est ce qui permet de dire d'où on parle, s'affirmer sur une tradition et après, par le design, faire dire l'innovation. Mais il ne faut pas hésiter à...
Oui,
à...
marteler que c'est français, d'où ça vient,
d'où ça vient, une histoire, une narration.
Ouais. Mettre en avant nos régions. Vous avez besoin de quoi, Didier Fink, aujourd'hui ? Comment peut-on vous aider à part parler
aujourd'hui,
de
vous ? Déjà, en nous suivant sur apos.officiel,
sur
nos réseaux sociaux. et évidemment,
on a un chéquier plein, nous. Allez-y, c'est le moment.
Bien sûr, on recherche des investisseurs pour pouvoir un développement à l'étranger. Combien ? Entre 500 et 1 million d'euros pour avoir.
C'est ça qui est intéressant dans votre projet, c'est-à-dire que vous savez que ça ne peut fonctionner que si vous êtes présent dans les gros marchés mondiaux, et c'est ça aujourd'hui qui vous manque un peu d'argent pour aller prospecter, et que le Covid s'arrête, je crois, pour aussi pouvoir être un poil plus libre de vos mouvements pour pouvoir aller présenter vos mondes.
C'est ça, mais il y a une demande aussi à l'étranger. On sait que la France est bien vue, les produits français sont bien vus à l'étranger, et on sait qu'il y a une demande justement à l'étranger, et c'est vraiment pour nous certain que le marché étranger est très important.
Merci à vous. En tout cas, merci à vous, Didier Fink, un cofondateur de Apos, hein, cette nouvelle marque de montres très, très française. Et on vous dit bonne chance. Surtout, donnez-nous de vos nouvelles. On aime bien savoir ce que deviennent nos pitchers.
Bah, écoutez, avec plaisir.
Et on aura dès demain des nouvelles de Nathalie Carré, qu'on sera très heureux de vous retrouver. Si vous avez un projet, si vous avez envie d'être challengé par notre témoin du jour, eh bien, c'est très simple. Vous pouvez envoyer votre candidature sur notre boîte mail e1-lafrancebouge@europe1.fr et vous aurez peut-être la chance, comme ça, de faire partie de nos candidats. Ou de nos candidats en route pour les trophées Europe 1.
Michel-Edouard Leclerc, c'est la fin de notre émission. Vous êtes le PDG du groupe Leclerc. Merci d'être venu nous en parler.
Je réinsiste. Hein,
oui, vous êtes
patron, ambassadeur.
Vous êtes l'ambassadeur de tous ces
magasins
Leclerc. C'est une de
commerçants indépendants. Ils sont présidés. C'est un homme, une voix, une femme, une voix. Et c'est une force aussi aujourd'hui, parce qu'ils sont ancrés dans les terroirs, comme toi, tu as envie de le faire, et avec tes montres. Et voilà, et on est...
On promeut les gens, nous, à la France Bouche, de notre côté positif.
Merci à vous. En tout cas, Emmanuel, on se retrouve demain à 13h. Demain, on va aider les jeunes.
Oui, demain, émission quand même un petit peu spéciale, puisqu'on a entendu que du côté notamment des étudiants, la période est extrêmement compliquée. Est-ce qu'il y a des jobs ? Oui, vous verrez, il y aura par exemple 1000 emplois sur la table demain de la France Bouche. Et ils sont pour tout le monde. Venez demain pour cette émission spéciale autour des jeunes.
À demain. Dans un instant, le flash suivi de Christophe Ondelat.